On va prendre dans nos Bibles Luc chapitre 1, le passage qu'on a lu tout à l'heure. Donc Luc chapitre 1. Donc les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc contiennent quatre hymnes de louange à Dieu dans le contexte de la naissance de Jésus. Donc ils sont chantés par des hommes ou par des anges à l'occasion donc de cette naissance. Et l'Église en a fait des cantiques dès les premiers temps. En fait, c'était donc des cantiques qui étaient écrits en latin. Et donc ils sont souvent connus par leur titre en fait latin, qui correspond au premier mot du passage donc, qui est pris dans les évangiles pour faire ces cantiques. Donc il y en a un qui est très connu, c'est ce qu'on appelle le Magnificat ou le Cantique de Marie, qui se trouve en Luc 1, 46 à 55. Donc les premiers mots de ce passage sont « Mon âme magnifie le Seigneur », d'où le mot latin « Magnificat ». Le deuxième vient juste après, donc en Luc 1, 67 à 80, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le Cantique de Zacharie. Et donc il a pour titre latin « Benedictus », donc d'après le premier mot de ce passage qui est « Béni soit le Seigneur ». Le troisième, c'est le « Gloria », qui se trouve donc en Luc 2, 14, où les anges disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Et ensuite, il y a une réflexion qui est faite par rapport à ce verset dans le cantique. Et enfin, le quatrième, c'est le « Nunc Dimittis » ou « Cantique de Siméon » qui se trouve en Luc 2, 29 à 30. Et le titre latin signifie « Laisse maintenant ». Donc c'est « Laisse maintenant partir ton serviteur ». Donc ce sont les mots qu'on trouve en Luc 2, 29. Donc aujourd'hui, on va regarder un de ces textes qu'on a lu au début du culte, donc qui est le cantique de Zacharie, qui se trouve en Luc 1, 67 à 80. Et donc, en fait, je vais le relire. Donc, rappelons que Zacharie, donc il est le père de Jean-Baptiste. Et donc, à cause de son incrédulité, lorsque l'ange lui a annoncé que sa femme Élisabeth serait enceinte, il a été rendu muet. Et juste à la naissance de Jean-Baptiste, juste à ce moment-là, il peut de nouveau parler. Et donc, ses paroles, donc, qui sont dans ce passage, sont les premières paroles qu'il prononce après 9 mois de silence. Donc je lis, en fait, soyez pas surpris si vous voyez un peu une différence avec vos textes, que je lis dans la version Osterwald, donc qui est légèrement différente des versions Louis II. Donc, Luc 1, pardon, 67 à 80. Alors, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur, dans la maison de David son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps, de ce qu'il nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères, et se souvenir de sa sainte alliance, savoir du serment qu'il avait fait à Abraham notre père, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte dans la sainteté et dans la justice, en sa présence, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Et le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Donc c'est un passage qui est très dense, qui est rempli de thèmes qui pourraient donner lieu à de nombreux sermons, vraiment très, très compact. Il y a des thèmes comme par exemple la venue du Seigneur, la rédemption, les prophéties messianiques, le Messie en tant que fils de David, le puissant sauveur, la victoire sur la mort et le péché, la miséricorde de Dieu, l'alliance avec Abraham, le service du chrétien, la sanctification, la présence de Dieu, la mission de Jean-Baptiste, la proclamation de l'évangile, la rémission des péchés, les ténèbres de l'homme sans Dieu, Christ en tant que lumière et la nouvelle naissance. Tous ces thèmes que je viens de dire sont abordés dans ce passage. Donc c'est évidemment très dense. On va parler de certains de ces thèmes, mais pas... probablement pas avec la profondeur qu'il mériterait. Donc on va surtout beaucoup survoler. Donc le plan de ma prédication, donc, il sera en trois parties. Donc Premièrement, le salut annoncé. Deuxièmement, le salut accompli. Et troisièmement, le salut appliqué. Donc le salut qui est annoncé par les prophètes, le salut qui est accompli par le puissant sauveur et le salut donc appliqué aux hommes. Donc tout d'abord, le salut donc annoncé. Donc dans les versets 68 à 70, nous lisons ceci. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche des saints prophètes depuis longtemps. Donc ces versets nous disent que le salut a été annoncé par les saints prophètes depuis longtemps, même dans la Bible en anglais, la King James parle, elle dit depuis la fondation du monde, depuis que le monde existe. Et donc lorsque Jésus se trouvait sur la route d'Emmaüs, donc le jour finalement de sa résurrection, et il parle aux disciples qui sont découragés, et en fait, il les reprend à cause de leur lenteur à comprendre et il leur dit ceci. Il leur dit aux gens sans intelligence, donc ça se trouve en Luc 24, 25 à 27, aux gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. Donc, selon Jésus, toutes les Écritures parlent de lui. Et au moment où il parle, donc dans ce passage, les Écritures elles se limitaient exclusivement à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'existait pas. Donc l'histoire de la rédemption, elle ne commence pas aux premières pages du Nouveau Testament, mais elle commence aux premières pages de l'Ancien Testament. Et donc, on va voir donc dans quelques instants comment les prophètes ont clairement annoncé, abondamment annoncé la venue de Jésus dans l'Ancien Testament. Mais même sans parler de prophéties spécifiques, on a vu l'autre jour, pour ceux qui y ont participé, lorsqu'on a fait l'étude sur Zoom sur le psaume 111, que ce psaume, comme beaucoup d'autres psaumes, est rempli du thème de la rédemption et du salut en Jésus-Christ. Martin Luther disait que les psaumes, le livre des psaumes était centré sur Christ. Donc, en fait, il faut voir tout l'Ancien Testament comme étant à propos de Christ. Donc, le verset 69, dans ce passage, nous parle de... Il décrit le contenu de ces prophéties et il dit que c'est la venue d'un puissant sauveur dans la maison de David. Donc, la venue d'un puissant sauveur dans la maison de David. Donc, nous allons regarder deux prophéties qui traitent précisément de ce point et qui sont souvent citées à Noël. Et nous verrons qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais on va regarder, donc, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, donc dans Michée 5, versets 1 à 4. Michée 5, versets 1 à 4. Michée 5, versets 1 à 4. Mais toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où celle qui doit enfanter enfantera, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se maintiendra et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils habiteront en paix, car alors il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est lui qui sera la paix. Donc cette prophétie, elle est bien connue. C'est une prophétie typique de Noël, et en particulier, d'ailleurs, elle a été rappelée par les scribes lorsqu'Hérode leur a demandé où devait naître le Messie. Et ils lui ont dit à Bethléem, en se fondant sur cette prophétie. Dans cette prophétie, on voit trois choses. Premièrement, le personnage dont il est parlé est originaire de Bethléem, la ville de David. Donc, qui correspond bien au fait, comme le dit notre passage, que le Sauveur est issu de la maison de David. Deuxièmement, c'est un puissant Sauveur. On voit qu'il est puissant, il est dominateur en Israël, nous dit le passage. Il gouverne avec force et majesté, non seulement en Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et aussi, c'est un sauveur, il apporte la paix, nous dit le passage. Et enfin, troisièmement, ce puissant sauveur est éternel. Le texte nous dit que ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. Il gouvernera avec la majesté du nom de l'Éternel. Et en fait, il est l'Éternel. Et cela correspond à ce que dit le verset 68 de notre texte, qui dit que le Dieu d'Israël visitera son peuple. En fait, le puissant sauveur issu de la maison de David n'est autre que l'Éternel lui-même. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons maintenant un autre passage très célèbre aussi, une prophétie de Noël très célèbre, donc est dans Ésaïe 9. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Pour accroître l'empire, pour donner une prospérité sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affermir dans l'équité et dans la justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Donc on retrouve des thèmes similaires au passage de Michée. On voit que le personnage décrit est lié au trône de David. Donc il est donc pour donner une prospérité sans fin au trône de David. Une prospérité sans fin, donc il y a cette notion aussi d'éternité. David n'était pas éternel. On voit qu'il domine sur un empire et on voit qu'il donne la paix à son peuple. Donc il est appelé prince de la paix. Il est doté des attributs divins, donc il est appelé Dieu puissant, donc en Louis II, dans mon texte, c'était Dieu fort, Père d'éternité. Et comme le passage de Michée, ce passage annonce que ce puissant sauveur viendra d'abord sous la forme d'un enfant. Et au moment où Zacharie parle, on est 6 mois en fait avant la naissance de Jésus, donc il est encore un bébé dans le ventre de sa maman. On pourrait citer beaucoup d'autres passages, il y a beaucoup d'autres passages qui... c'est vraiment frappant de voir le nombre de prophéties qui parlent de cette future prospérité du trône de David. Par exemple, le psaume 72. Bon, le psaume 72, c'est un psaume qui parle de Salomon, mais d'une façon qui dépasse largement Salomon et qui ne peut désigner que Christ. Et où il est dit, par exemple, au verset 5, « On te craindra tant que dureront le soleil et la lune dans tous les âges. » Alors Salomon n'a pas vécu aussi longtemps que le soleil et la lune. Et on voit aussi qu'il dominera d'une mer à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. On retrouve un langage qu'on a eu dans les prophéties plus haut, mais Salomon n'a pas dominé jusqu'au bout de la terre. On a aussi, par exemple, Ésaïe 11, bien connu, qui nous parle d'un rejeton qui sortira du trône d'Isaïe. Isaïe était le père, on l'appelait aussi Jessé, qui était le père de David. Et ce passage continue en disant que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, etc. Donc tout un long passage sur le Messie, en fait. Puis il y a d'autres passages qui parlent de ce puissant sauveur sans nécessairement le relier à la lignée de David. Par exemple, on a le passage du Fils de l'homme dans Daniel 7, 14. Donc Fils de l'homme, c'était le terme, un des termes préférés de Jésus pour se désigner lui-même. Et ce passage dit... Donc, en parlant du Fils de l'homme, à qui on donna, donc c'est Daniel 7, 14, à qui on donna la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, nations et langues servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera point détruit. On a aussi Genèse 49, 8 à 12, qui est dans la bénédiction de Jacob. Où il parle de Jésus en l'appelant le lion de la tribu de Juda. On a Jérémie 23, 5 et 6, où là, il y a référence clairement faite à David, où il parle de l'Éternel, notre justice, qui est un germe, donc une branche juste, suscitée à David. Donc on a tous ces passages qui parlent de la venue du Messie. Et Zacharie les a tous en tête. Zacharie est un prêtre. C'est un homme qui connaissait les Écritures. Et donc quand il a fait cette prophétie, il a tout ça qui est à l'esprit. Il y a toutes ces prophéties qu'il connaît et voilà, elles sont en train de se réaliser. Je n'ai pas parlé, et on va développer plus loin, mais il y a également toute la prophétie qui concerne Abraham qui est réalisée à la naissance de Jésus. Ça fera l'objet d'un développement un peu plus loin dans mon passage. Et en fait, Dieu donc a... Au moment où Zacharie parle, Dieu, il a parce que Zacharie parle au passé, il dit que Dieu a visité son peuple et qu'il a suscité un puissant sauveur. Il l'a déjà fait parce qu'à ce moment-là, en fait, eh bien, Jésus est déjà dans le ventre de Marie. Il va bientôt naître. Donc on voit que si on lit le Nouveau Testament, en ignorant l'Ancien Testament, on ferme les yeux sur tout un pan de l'histoire de la rédemption. Parce qu'en fait, le Nouveau Testament, c'est une réalisation de l'Ancien Testament. On ne peut pas déconnecter le Nouveau Testament de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament réalise tout ce qui a été dit sur Jésus dans l'Ancien Testament. Et en fait, l'Ancien Testament, c'est un texte sur le Christ, c'est un texte sur la deuxième personne de la Trinité. Maintenant, on va voir notre deuxième partie. Donc, on a vu donc le salut annoncé dans ce passage. Maintenant, on va voir le salut accompli. On va voir le salut accompli. Et donc, on va voir comment... On va regarder l'œuvre de ce puissant sauveur, donc comment il a accompli le salut. Donc dans cette section, on va voir quatre points. Donc quatre points issus de notre passage. Premier point, le fait que ce puissant sauveur visite son peuple. Deuxième point, le rachat ou la rédemption. Troisième point, la délivrance de nos ennemis. Et quatrième point, l'alliance avec Abraham. Donc, premier point, Dieu visite son peuple. Verset 68 nous dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Et ce terme « visiter », c'est un très beau terme qu'on trouve pas mal dans l'Ancien Testament. Et par exemple, je vais citer quelques passages. 1 Samuel 2:21, donc à propos de Anne, en fait, qui était cette femme qui était stérile. Et donc 1 Samuel 2:21 dit « Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. » Ruth, donc Ruth 1, chapitre 6. Donc là, c'est Naomi, le passage parle de Naomi. « Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. » Puis on a Exode 4:31, ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc le mot hébreu qui est traduit ainsi « visiter » signifie « observer attentivement, prendre un soin particulier ». Et on voit dans les versets que je viens de citer que le peuple ou les personnes comme Anna, c'était des gens qui étaient depuis longtemps dans une situation désespérée. Et Dieu les a visités, il s'est intéressé à eux, il s'est occupé d'eux. Et dans notre passage un peu plus loin, versets 78-79, on retrouve ce terme, visité de façon magnifique, où il est dit, verset 78, « Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquelles le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. » Donc c'est une référence directe à Ésaïe, encore une fois Ésaïe 9, qui est cité en Matthieu 4:15-16. Donc je lis pour vous. Donc Matthieu 4:15-16. « Pays de Zabulon et de Nephtali, sur le chemin de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des gentils, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort. » Là aussi, donc, on a l'image d'un peuple qui est dans une situation spirituelle désespérée, il est dans les ténèbres de l'ignorance. Il ignore la voie du salut, il est voué à la mort éternelle. Et le soleil levant, c'est-à-dire Jésus-Christ, les a visités. Jésus les visite, il s'occupe d'eux, il prend soin d'eux. Et Matthieu, évidemment, fait référence au ministère de Jésus qui a commencé dans cette région de la Galilée. Et notez également la motivation de Dieu dans le verset 78, la motivation de Dieu pour visiter son peuple. Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Donc c'est le thème ce matin d'un sauveur miséricordieux. Donc vous voyez cette expression par les entrailles de miséricorde, quelle image, on n'utilise plus beaucoup ça en français moderne. Mais on comprend bien ce que ça veut dire, on comprend que c'est une miséricorde qui vient du fond du cœur, du plus profond du cœur de Dieu. Et donc une telle miséricorde doit être très grande. Et donc la cause première de notre salut, c'est la miséricorde de Dieu à notre égard. Donc on a vu donc ce thème donc de Dieu qui visite son peuple. Maintenant, deuxième thème dans notre deuxième partie, le rachat ou la rédemption. Le rachat ou la rédemption. Donc le verset 68 nous dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Donc le mot « rachat » ou le mot « rédemption » veulent dire la même chose. On le trouve par exemple en Romains 3, 24, où Paul dit que nous sommes justifiés gratuitement par la grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et en Apocalypse 5, verset 9, donc les 24 anciens et les 4 animaux chantent en fait ceci, ce cantique, « Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir ses sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et en Marc 10, 45, Jésus dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Donc on paye une rançon pour libérer un otage, on rachète la liberté d'un esclave, et le mot rédemption est utilisé en langage financier pour le paiement d'une dette. Nous avons tous une dette énorme à payer. Toute la vie, nous accumulons une dette de péché que nous ajoutons les uns sur les autres. Paul, en Romains 2, verset 5, dit ceci, « Par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, le jour de la colère, pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Au jour du jugement, Dieu fera des comptes et nous demandera le remboursement de la dette. Il nous demandera le remboursement de ce trésor de colère qu'on a accumulé, qu'on a amassé jour après jour, après jour, après jour. Et ce sera un jour de colère pour ceux qui ne pourront pas payer. Et aucun de nous ne peut payer. Ni vous, ni moi, car la dette vaut 10 000 talents. C'est 10 000 lingots d'or, une somme énorme, une somme infinie. Mais Jésus a payé le prix de la dette. Il est dit qu'il a payé la rançon. Il a dit lui-même qu'il était venu payer la rançon. Il a racheté son peuple. Il a payé le prix avec son sang versé à la croix du calvaire. Au verset 77, notre texte parle de la rémission des péchés. C'est exactement le même concept. On remet, en français on dit qu'on remet une dette, on remet une peine de prison. Cela veut dire qu'on les annule. Donc la rédemption, elle a pour effet que nos péchés sont remis, la dette est effacée. Par le sang de Jésus-Christ, c'est le prix que Dieu a payé pour racheter son peuple. Et donc la question solennelle qui se pose à chacun d'entre nous, vu qu'on a tous accumulé ce trésor de colère pour le jour de la colère, la question c'est est-ce qu'on fait partie de son peuple ? On fait partie du peuple de Dieu pour lequel la dette a été payée par Jésus-Christ. Troisième point qu'on veut voir dans cette deuxième partie, c'est la délivrance de nos ennemis. On a vu que Dieu visite son peuple, que Dieu rachète son peuple, et on voit ensuite qu'il est le puissant sauveur est venu nous délivrer de nos ennemis. Donc verset 71, de ce qui nous a sauvés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et verset 74, il y a un langage similaire, étant délivré de nos ennemis. Donc ce thème de la délivrance des ennemis, il est étroitement lié à la conquête de Canaan, si vous voulez bien regarder dans vos Bibles, Deutéronome 12, verset 10. Donc Deutéronome 12, verset 10, donc c'était le discours prononcé par Moïse au peuple d'Israël, juste avant la conquête de Canaan. Et Moïse donc leur dit, en Deutéronome 12, verset 10, il leur dit ceci, « Mais vous passerez le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos, après vous avoir délivré. » Donc il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Donc cette délivrance-là, il parle d'une délivrance militaire, Moïse parle d'une délivrance militaire, mais c'est une préfiguration de l'œuvre de Christ. Donc la mission de Christ, quand Zacharie parle donc de délivrer nos ennemis dans ce passage, ce n'est pas une mission militaire, même si d'ailleurs, beaucoup de gens l'avaient mal compris à son époque, même ses disciples, ils pensaient en fait que Jésus était venu pour les délivrer des Romains. Mais c'était une confusion sur le rôle réel de Jésus. Jésus, en fait, nous délivre délivre son peuple. Et donc, nous en particulier, nous sommes son peuple, nous sommes les chrétiens. Il nous délivre d'ennemis bien plus puissants que des ennemis militaires. Il nous délivre d'ennemis bien plus puissants que les Romains. On va regarder par exemple en 1 Corinthiens, si vous voulez bien regarder dans vos Bibles, en 1 Corinthiens 15, versets 24 et 26, on va voir de quoi Jésus est venu nous délivrer. Après cela, viendra la fin. Quand il aura remis le royaume à Dieu le Père et qu'il aura détruit tout empire, toute domination, toute puissance, car elle doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit le dernier, c'est la mort. Et voyez, en fait, ses ennemis, ce sont nos ennemis. Donc Jésus est venu pour détruire la mort. Et aussi, il est venu pour détruire Satan. On voit qu'il est, il est dit qu'il détruit toute domination, toute puissance, qui est en fait un langage souvent utilisé pour parler de Satan et de ses anges déchus. Et plus loin, dans le même chapitre, versets 54 et 56, on lit « La mort est engloutie pour toujours ». Donc versets 54 à 56, « La mort est engloutie pour toujours ». Verset 55, « Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô sépulcre, où est ta victoire ? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. » Jésus délivre son peuple de cet autre ennemi, qui est le péché. Et enfin, il délivre son peuple de la loi, non pas des préceptes de la loi qui sont justes et bons, qui sont un guide pour le chrétien, mais il délivre son peuple de la condamnation de la loi. Donc voilà tous les ennemis dont Christ nous délivre, donc ce puissant sauveur est venu nous délivrer. Et Jésus, il a triomphé de tous ses ennemis. À quel endroit il a triomphé de ses ennemis? Sur la croix du calvaire, précisément. Alors qu'aux yeux des hommes, Jésus était dans cette situation de faiblesse, il était complètement vaincu. Eh bien, en réalité, il était en train de triompher. Et si vous pouvez prendre dans vos Bibles Colossiens 2 décrit cette victoire comme les triomphes des généraux de l'Antiquité romaine. Vous avez peut-être vu des films comme ça, des films péplum des années 50, où on voit un général qui défile dans Rome, avec traînant derrière lui les hommes qui étaient vaincus, les rois des hommes vaincus, et c'était vraiment comme ça que ça se passait. C'est ce qu'on appelait un triomphe. Et en fait, Colossiens 2,15 décrit un triomphe, le triomphe de Jésus, où il dit « Ayant dépouillé les principautés et les puissances », donc ce sont les Satan et ses anges, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, triomphant d'elles sur la croix. Donc ces généraux romains, ils montraient publiquement en spectacle les vaincus et souvent ils étaient ensuite mis à mort. Vous voyez cette image sur la croix, Jésus est en train de triompher, il faisait un triomphe où publiquement il montrait la destruction de nos ennemis, donc de Satan et de ses anges. Quatrième point dans ma deuxième partie, c'est l'alliance donc avec Abraham. Donc on a donc la partie sur le salut accompli, on regarde maintenant l'alliance avec Abraham. Donc on a vu que Dieu visite son peuple, que Dieu rachète son peuple, que le puissant sauveur détruit les ennemis. Et maintenant on va voir ce passage précieux sur l'alliance avec Abraham. Je ne sais pas si on est tous bien, on comprend bien comment l'alliance avec Abraham nous touche directement. Donc on va regarder les versets 72 à 75. Donc, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, à savoir du serment qu'il avait fait à Abraham, notre père, de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions sans crainte, dans la sainteté, dans la justice, en sa présence, tous les jours de notre vie. Donc Dieu est intervenu plusieurs fois auprès d'Abraham en Genèse, plusieurs chapitres, donc chapitre 12, 17, 15, 22, est intervenu auprès d'Abraham pour faire réitérer avec lui une alliance. Il a réitéré avec lui plusieurs fois, il lui a fait des promesses. Donc c'est vraiment, on ne va pas regarder ces textes en détail, mais on va regarder un en particulier, on va quand même regarder chapitre 22, 16 à 18. Parce qu'en fait, c'est le texte qui, je dirais, inspire le plus notre passage. Je ne sais pas si vous, en lisant ce passage auparavant, si vous ne vous êtes pas déjà demandé comme moi, Quand est-ce que Dieu parle à Abraham de délivrer des ennemis? Ce n'est pas quelque chose qui nous viendrait à l'esprit en parlant de l'alliance avec Abraham. Et pourtant, c'est ce qui est dit. C'est bien ce qui est dit en Genèse 22, 16 à 18. Donc, Abraham vient de, et donc sur le mont Moria, donc, il a amené son fils en sacrifice, et Dieu donc a pourvu un bélier en fait. Il a testé la fidélité d'Abraham. Il a vu qu'Abraham était prêt à lui livrer son fils. Il n'a pas sacrifié son fils et à la place, donc il a donné un bélier. Et voilà ce que dit l'Éternel. Genèse 22, 16. Je jure par moi-même, dit l'Éternel, que puisque tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, les étoiles des cieux, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc ce passage, ta postérité possédera la porte de tes ennemis, ça veut dire, c'est une image de c'est relié au verset 74, étant délivré de la main de nos ennemis, ça veut dire la même chose. Posséder la porte des ennemis, ça veut dire avoir la victoire sur eux. Si on réfléchit un peu sur donc, l'alliance avec Abraham, en Galates 3, Paul développe en détail le fait que cette postérité, parce qu'il est dit ici « ta postérité possédera la porte de ses ennemis ». Donc en Galates 3, en fait, Paul développe en détail le fait que cette postérité au singulier dont il est parlé dans ce passage, c'est Christ. Ce n'est pas l'ensemble des descendants génétiques d'Abraham, mais c'est Christ. Et Paul explique que nous, les chrétiens, sommes héritiers de la promesse faite à Abraham si nous sommes à Christ. C'est ce qu'il dit au verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon sa promesse. Selon la promesse. Donc nous sommes en fait, l'alliance d'Abraham, elle est faite par Christ, elle est faite avec nous. Donc 4000 ans après, l'alliance de Dieu que Dieu a passée avec Abraham il y a 4000 ans, elle est toujours valable pour nous aujourd'hui. Et c'est à cause de sa miséricorde, dit le texte. Dieu s'est souvenu de l'alliance passée avec Abraham, il a envoyé Jésus. Parce que pour que l'alliance puisse se réaliser, il fallait que la postérité vienne. Et la postérité, le moment dans l'histoire où cette postérité au singulier est venue, c'est le moment où Zacharie parle. À ce moment-là, Dieu est en train d'accomplir sa promesse parce que dans le ventre de Marie se trouve Jésus. Donc la postérité d'Abraham, elle va naître. Et c'est elle qui possédera la porte de ses ennemis et qui les vaincra. Donc c'est elle qui détruira ses ennemis. Donc je pense qu'on ne passe pas assez de temps à réfléchir. On pourrait aussi développer ça, mais il faudrait faire un autre message, notamment sur Hébreux 6. Tout ce que ça veut dire pour nous les chrétiens, la promesse qu'a faite Abraham, qui est une promesse irrévocable dans laquelle Dieu lui-même a dit « je jure par mon propre nom ». Dieu a juré par son propre nom que la promesse serait tenue. Et cette promesse, elle est pour nous. Elle est pour nous. Donc voilà la fin de notre deuxième partie. Maintenant, troisième partie, on va regarder le salut appliqué. Donc le salut, ce salut qui a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, qui a été accompli par le puissant sauveur Jésus-Christ, maintenant il est appliqué aux hommes. Et donc là, on va regarder en particulier les versets 76 à 78. Et en fait, on va regarder donc dans cette partie, on aura deux points qui sont la connaissance du salut et le service du chrétien ou la sanctification. Donc, service du chrétien et sanctification. Donc, versets 76 à 79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, par lesquels le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Donc pour l'instant, en fait, dans ce passage, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que les premiers mots de Zacharie, après la naissance de son fils, ce n'est pas pour parler de son fils, c'est un peu étonnant, c'est pour parler du Sauveur. Mais maintenant, il va parler de son fils. Donc il va parler effectivement de... Quand il dit « Toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut », il parle de Jean le Baptiste, dont la mission, en fait, est principalement de préparer les voies du Seigneur. Donc, on ne va pas rentrer en détail sur le ministère de Jean-Baptiste, parce que ça mériterait certainement au moins un sermon. On va juste faire une petite remarque. Au verset 77, il est dit « afin de donner la connaissance du salut à son peuple ». De qui parle le passage? Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui donne la connaissance du salut ou est-ce que c'est Jésus? En fait, je pense que les deux sont vrais. Jean, donc, il va introduire Jésus, il va annoncer sa venue, il va le présenter comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donc il annonce l'évangile. Il y a un autre passage en Jean 3, 36 où il dit, donc c'est Jean qui parle, qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » On pourrait croire que c'est des paroles de Jésus, mais en fait ce sont des paroles de Jean-Baptiste et c'est vraiment aussi une proclamation très claire de l'évangile. Mais Jésus va reprendre et développer donc cet enseignement tout au long de son ministère. Et puis ensuite, Jésus va envoyer son esprit aux apôtres qui vont eux-mêmes continuer à développer cet enseignement donc dans leurs épîtres, dont le contenu est tout autant l'enseignement de Jésus que les paroles qu'il a prononcées pendant son ministère et qui sont rapportées dans les évangiles. Donc il est, vous avez vu donc dans ce verset, il est dit « Et toi, petit enfant, donc prophète, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner la connaissance du salut à son peuple. » Donc il est très important de comprendre que le salut commence par une connaissance. Le salut ne commence pas par une émotion. Le salut, ce n'est pas une chose vague, ce n'est pas une sorte de sentiment. Le salut, ça commence par une connaissance. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Dans ma génération, quand on parlait des nouvelles, c'était ce que vous appelez les infos. Les nouvelles, bon, les jeunes ne disent plus ça maintenant, je pense, mais les nouvelles, regarder les nouvelles à la télé, c'était les informations. Donc une bonne nouvelle, c'est une bonne information. Et le cœur de cette nouvelle, c'est donc essentiellement l'œuvre de Christ sur la croix pour sauver des pécheurs misérables de la damnation à cause de leurs péchés et pour les amener avec lui dans la gloire. Et la description plus succincte de cette nouvelle, on pourrait dire qu'elle se trouve par exemple dans Jean 3,16. Mais c'est une nouvelle. La connaissance de cette bonne nouvelle, elle est un élément indispensable de la foi. Ce n'est pas parce qu'on connaît la bonne nouvelle qu'on est sauvé. La foi, ce n'est pas seulement une connaissance, mais il n'y a pas de foi sans la connaissance de cette bonne nouvelle. La foi consiste à mettre sa confiance dans la bonne nouvelle. Donc ça, c'est vraiment important. La foi, ce n'est pas « j'ai la foi, une sorte de chose, il faut avoir la foi ». Non, la foi dans quelque chose. La foi dans quelque chose. La confiance dans quelque chose, c'est la foi dans la bonne nouvelle. Donc la connaissance du salut. Alors j'ai cité Jean 3,16, il y a beaucoup plus à dire sur l'œuvre de Jésus que Jean 3,16. Ceci étant dit, c'est pour ça que donc, le Nouveau Testament ne se limite pas à un verset, mais ceci étant dit, la personne qui adhère entièrement à ce qu'il dit dans Jean 3,16, cette personne, si elle adhère avec son cœur à Jean 3,16, elle est sauvée. Et le problème, en fait, c'est que pour beaucoup de personnes, Jean 3,16 glisse comme de l'eau sur une toile cirée. Ça leur rentre en oreille, ça sort par l'autre. Ils entendent bien le verset, mais ça n'a pas d'impact sur leur cœur. C'est un peu comme dans la parabole, les graines qui sont jetées au bord du chemin. La semence est bonne, mais les oiseaux viennent la manger. Et la graine ne porte pas de fruits. Et donc, pour que l'évangile pénètre dans les cœurs, il faut passer de la connaissance à la confiance, de la connaissance à la foi. Et pour ça, il faut qu'il y ait une œuvre du Seigneur. Et je crois que c'est ce que décrit le verset 79, quand il parle d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Parce que tant que nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes spirituellement dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Nous sommes complètement aveugles. Tout à l'heure, le frère a parlé de notre frère Hassen qui est venu en France et Dieu lui a à la fois permis de lui ouvrir ses yeux physiques, mais aussi les yeux de son cœur. Ça, c'est une œuvre que seul Dieu peut faire. Les chirurgiens, ils peuvent guérir les yeux. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir les yeux du cœur. Et c'est, je crois que c'est vraiment ce que, enfin en tout cas, une chose qui est dite dans ce verset, éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Et regardez en 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. « Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Ça nous parle de la nouvelle naissance, où la lumière se fait dans notre cœur et nous, tout à coup, nous comprenons le salut. Le grand évangélique, donc chrétien évangélique anglais du XVIIIe siècle, donc le fondateur du méthodisme, John Wesley, qui a écrit une profusion, enfin surtout son frère, mais lui aussi, son frère Charles, une profusion de cantiques magnifiques. Dans un de ses cantiques, il décrit son expérience de conversion, donc un célèbre cantique qu'on a dû chanter ici, ou en tout cas dont la musique a été jouée, qui s'appelle « How can it be ?». Et je lis pour vous un des paragraphes qui est absolument magnifique. Écoutez bien comment John Wesley décrit sa conversion, dans un langage un peu poétique, bien sûr. « Depuis longtemps, mon esprit était prisonnier du péché et des ténèbres de la nature humaine. Ton œil diffusa un rayon de vie. Je me réveillais, mon cachot était rempli de lumière, mes chaînes tombèrent, mon cœur était libre, je me levais et te suivis. » Donc ça, c'est vraiment la lumière. Vous imaginez John Wesley qui imagine sa vie être quelqu'un qui était enfermé dans un cachot, une prison obscure, et tout à coup, au milieu de cette prison, une immense lumière jaillit. Il se réveille, ses chaînes tombent, il se lève. Donc son cœur est libre, il se lève et il suit Jésus. Magnifique image de la lumière donc, qui a jailli dans les ténèbres, et donc de Christ qui jaillit dans les ténèbres de nos cœurs. Il le fait par son Saint-Esprit lorsque les personnes sont sauvées. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est une œuvre de Christ par son Esprit dans le cœur de l'homme pour le rendre à la vie de la mort spirituelle dans laquelle il se trouvait. Et alors, quand cette lumière a jailli, là, la personne, elle comprend Jean 3,16. Tout à coup, elle comprend ce message de l'Évangile. Ce n'est plus quelque chose qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre. C'est quelque chose qui reste et qui pénètre dans le cœur et qui, comme la graine semée dans la parabole de Matthieu 13, elle va grandir, elle va porter du fruit ou comme le levain dans la pâte, sans même qu'on s'en rende compte. Deuxième et dernière partie, donc dans la troisième partie sur le salut appliqué, donc on a vu la... La connaissance du salut, maintenant, donc la sanctification, deuxième partie, la sanctification et le service du chrétien. Il y a un passage qu'on a peut-être, sur lequel on est peut-être passé un peu vite tout à l'heure, 74-75, très important, qui parle de nous accorder que, étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servirions sans crainte, dans la sainteté, dans la justice, en sa présence tous les jours de notre vie. Ce passage nous dit pourquoi... Donc verset 74-75, ce passage nous dit pourquoi Jésus nous délivre de nos ennemis, dans quel but il nous délivre du péché, il nous délivre de la condamnation de la loi, il nous délivre de Satan et de la mort. Pourquoi il fait ça? Il le fait, nous dit le passage, pour que nous le servions. Donc le but, c'est pour le servir. Je crois que le frère tout à l'heure, dans sa prière, a parlé du fait d'être zélé pour les bonnes œuvres. C'est un passage qu'on a, on reverra plus loin. C'est un des buts de la... C'est même le but du salut. Remarquez dans ces versets l'ordre. C'est très important. Vous voyez, il nous dit... l'ordre, c'est d'abord, Jésus nous délivre de nos ennemis. D'abord, nous sommes délivrés de nos ennemis. Ça vient en premier. Donc Jésus fait quelque chose, nous faisons rien. Jésus nous délivre de nos ennemis. Et ensuite, nous le servons. C'est pas... parce que nous le servons, qui va nous délivrer peut-être, mais c'est parce qu'il nous délivre, parce qu'il nous a délivrés, que nous le servons. C'est fondamental, ça n'est pas sauvé à cause de nos œuvres. Mais on produit des œuvres parce qu'on est sauvé. On est sauvé parce que Jésus a décidé de nous sauver. Remarquez ensuite comment nous le servons. Le passage nous dit que nous le servons sans crainte. Sans crainte. Il y a un monde entre servir un maître comme un esclave dans la peur, on dit le faire de façon servile, terrorisé. Il y a des gens qui connaissent ça dans leur travail. Ils font ce que leur chef leur demande parce qu'ils ont peur. Et puis, de l'autre côté, le servir sans crainte. Nous devons, les chrétiens, nous devons être assurés de notre salut. Nous ne servons pas Dieu par peur, mais nous le servons par gratitude, par reconnaissance. Parce qu'il nous a délivrés et qu'on n'a plus rien à craindre. Notre vie éternelle est assurée. Tous les ennemis que nous craignons, la mort, le péché, Satan, et en particulier la condamnation de la loi, ils ont été vaincus. Donc nous pouvons servir sans crainte, sans peur, un cœur libéré. Mais nous devons servir. Le passage ne se contente pas de nous dire que nous avons été délivrés, il nous dit que nous avons été délivrés pour servir. Et ce message, il est partout dans le Nouveau Testament. J'ai parlé donc en évoquant la prière du frère de Tite 2,14, où il est dit « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. » Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. » Donc il y a vraiment le salut est suivi de bonnes œuvres. Et il est dit que nous le servons sans crainte, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Est-ce que nous pouvons dire que nous servons Christ dans la sainteté et la justice? Est-ce que la sainteté et la justice caractérisent nos vies, au moins en partie? Nous ne serons jamais parfaitement saints et justes de ce côté-ci de l'éternité. Et je crains qu'il nous sera difficile de faire mieux que l'être un peu. Car tant que nous sommes dans la chair, les péchés se mélangent toujours, même à nos meilleurs efforts de justice et de sainteté. Mais est-ce qu'on est au moins un peu saints et justes? Mais est-ce que nous sommes brisés et contrits, que nous ne le sommes pas assez? C'est la question, c'est la parole nous dit, vous devez le servir sans crainte, dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de votre vie. Qui ici peut dire, oui, c'est ce que je fais? Non, je pense qu'on est tous à devoir reconnaître que ce n'est pas ce que nous faisons. Mais si ce n'est pas ce que nous faisons, est-ce que nous sommes brisés et contrits de ne pas y parvenir? Est-ce que nous prions le Seigneur pour qu'il nous donne plus de sainteté et de justice? Parce que c'est son projet pour nous. Son projet pour nous, c'est que nous le servions sans crainte, dans la sainteté et la justice, tous les jours de notre vie. Dans le milieu évangélique, il y a trop la vision du salut comme un vaccin. On parle beaucoup de vaccins en ce moment. On a pris le vaccin, on est tranquille, on ne va pas attraper le virus. Mais le salut n'est pas un vaccin contre l'enfer. Le salut n'est pas un vaccin contre l'enfer. Le salut, c'est le début d'une marche avec Dieu, et surtout d'une marche devant Dieu, dit le texte. Ça devrait beaucoup nous faire réfléchir de dire qu'on marche devant Dieu. Et c'est une marche qui dure toute la vie. Le grand philosophe français athée, Jean-Paul Sartre, ne supportait pas l'idée, parce qu'il avait bien compris ça, il ne supportait pas l'idée que Dieu nous regarde. Et pour lui, c'était la raison de son athéisme. Il ne pouvait pas supporter l'idée que Dieu nous regarde. Mais là, le texte nous dit que nous marchons devant Dieu tous les jours de notre vie. Martin Luther utilisait l'expression latine « coram Deo » qui veut dire « devant Dieu ». Il était conscient qu'il était devant Dieu tous les jours de la vie. Alors Dieu n'est pas, il n'est pas là en train de nous scruter et nous attendre au tournant pour nous verbaliser. Ce n'est pas un super radar. Dieu, il nous protège, il nous fortifie, il nous reprend, il nous encourage. Mais c'est une marche avec lui, à chaque instant, une marche devant lui. C'est une marche vers une destination assurée, qui est la Jérusalem céleste, mais on fait cette marche avec le Seigneur, devant lui. Tout ce qu'on fait, il le voit. Et ça devrait vraiment nous faire réfléchir. Alors, pour reprendre les paroles de l'apôtre Jean, et je conclurai là-dessus, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Quiconque a cette espérance en lui, si nous avons cette espérance de la vie éternelle, et nous avons cette espérance, si nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes tout à fait fondés à avoir cette espérance, Nous pouvons être assurés d'avoir cette espérance, mais si nous avons cette espérance, nous devons nous purifier nous-mêmes comme Dieu, lui, est pur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour Noël. Nous te remercions, Seigneur, de ce Sauveur qui est venu nous visiter. Nous te remercions, Seigneur, que tu as tenu ta promesse. Tu tiens toujours tes promesses. Nous devons être patients. Elles viennent quand les temps sont accomplis. Mais nous te remercions, Seigneur, que tu as tenu cette promesse. Nous te remercions que tu as envoyé cette postérité d'Abraham qui nous délivre de tous nos ennemis. Nous te remercions, Seigneur, que nous sommes délivrés. Si nous mettons notre confiance en toi, délivrés de Satan, délivrés de la mort, délivrés du péché, délivrés de la condamnation de la loi. Et Seigneur, nous demandons de nous donner de marcher dans la sainteté et la justice. Nous ne sommes pas saints et justes, Seigneur. Parfois, nous le sommes. Mais tout cela est souvent mélangé par le péché. Lave-nous, Seigneur, avec le sang de ton Fils à nouveau. Et donne-nous, Seigneur, de progresser encore dans la sainteté et la justice, afin de pouvoir te glorifier et t'honorer. Seigneur, pour ceux qui sont ici, Seigneur, qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas dans ton peuple, Seigneur, pas encore. Donne-leur, Seigneur, de réaliser que ils accumulent tous les jours, ils amassent tous les jours un trésor de colère pour le jour de la colère. Et que, Seigneur, tu leur donnes, rappelle-leur, Seigneur, que tu leur tends la main, que tu es prêt à les recevoir, que tu es prêt, Seigneur, à appliquer pour eux la délivrance que ton puissant Sauveur a gagné. Seigneur, touche des cœurs aujourd'hui. Travaille, Seigneur, dans les cœurs, afin que ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas mis en toi leur confiance, peut-être ils connaissent le salut, mais ils n'ont pas mis la confiance en toi, Seigneur, puissent-ils le faire, afin, Seigneur, d'être au bénéfice de l'œuvre de ton puissant Sauveur. Merci encore, Seigneur, pour cette immense grâce. Merci pour Noël, merci pour cette promesse que tu as faite et que tu as accomplie. En Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, au sein de ton Fils. Amen.